Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dix ans après le mondial en Afrique du Sud, Code Source a raconté en juin le fiasco de Nysna, la fameuse grève du bus. Ça nous a donné envie, pour ces vacances, de revenir sur des étés beaucoup plus glorieux pour les Bleus. Aujourd'hui, l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, la confirmation pour les Bleus de Zizou avec une finale qui s'est jouée sur un rien. Récit de Christophe Bérard et Harold Marchetti du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, deux ans après le sacre mondial des Bleus en 1998, est-ce que c'est la même équipe qui se prépare pour cet Euro en Belgique et aux Pays-Bas ?
En très grande partie, c'est la même. Évidemment, les champions, les héros de 98 sont toujours là. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Fabien Barthez, Thierry Henry, Robert Pires, Emmanuel Petit, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram, Vicente Lizarazu. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a notamment deux joueurs d'envergure qui ont rejoint cette équipe, Sylvain Wiltord et Nicolas Anelka, qui avaient été écartés à la dernière minute de la sélection deux ans plus tôt, qui sont venus renforcer les rangs de cette équipe.
Harold Marchetti, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont appelés à monter dans cette équipe ?
Oui, il y a des jokers, notamment au niveau offensif. On pense à Sylvain Wiltord, qui a fait une très très belle saison avec Bordeaux. On pense également à Robert Pires, qui lui était également en 98, qui a une capacité à entrer en cours de match. Et surtout, il y a David Trezeguet, qui est un attaquant très efficace et qui a surtout la capacité de faire basculer au cours de match.
Ces joueurs-là, ils sont clairement remplaçants, c'est pas forcément facile à vivre ?
Pour certains, c'est déjà un honneur d'être en équipe de France, donc ils se satisfont de ce statut. Pour d'autres, en revanche, c'est une punition et ils tirent clairement à gueule.
Didier Deschamps est capitaine, il est contesté ?
Même si ça reste le leader moral, humain de cette équipe, physiquement, il souffre plus qu'avant. Et effectivement, il est contesté par une partie de la presse et il va mal vivre ses critiques parce qu'il trouve qu'on est injuste avec lui.
Quel est l'objectif des Bleus pour cet Euro ?
Il est très simple, c'est de devenir la première équipe dans l'histoire, championne du monde, à devenir dans la foulée championne d'Europe. Un champion du monde qui ensuite devient champion d'Europe, ce n'est jamais arrivé. Ils veulent marquer l'histoire. Ils veulent un deuxième titre de champion d'Europe pour la France après celui de 1984.
Après 1998, le sélectionneur Aimé Jacquet a tiré sa révérence. Qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ?
C'est Roger Lemaire, c'était l'adjoint d'Aimé Jacquet en 98. Dans cette équipe, manifestement, on aime bien transmettre le pouvoir à son adjoint. Jacquet lui-même était l'adjoint de Gérard Rouillet en 1993. Et Roger Lemaire, il a une particularité, il a été le sélectionneur de l'équipe de France militaire pendant une dizaine d'années. Il a un côté effectivement très militaire dans sa gestion des hommes, certains le surnomment d'ailleurs l'adjudant. Il n'aime pas l'exercice médiatique, il s'y plie presque par défaut.
On est inquiet un peu pour Manuel Petit, ce n'est pas une blessure, c'est plus, disons, une petite montée de fièvre, un refroidissement qui fait que par rapport à Emmanuel Petit, on est dans l'expectative.
Ces conférences de presse ne sont pas des monuments de communication et de fluidité. Il n'aime pas cet exercice.
Quelle relation il a avec les Bleus ?
Il est très proche des joueurs. C'est souvent le cas des anciens adjoints qui font souvent de la calinothérapie auprès des joueurs. Eux-mêmes d'ailleurs ne l'appellent pas coach, ils l'appellent Roger.
Cet Euro de football se dispute du 10 juin au 2 juillet en Belgique et aux Pays-Bas. Harold Marchetti, vous faites partie de l'équipe du Parisien sur place pour couvrir l'événement. Les Bleus s'installent dans la banlieue de Bruxelles. Comment est-ce qu'ils sont accueillis ?
Ils sont très bien accueillis par le peuple belge. Ce sont les champions du monde. Forcément, ils sont accompagnés d'une aura. Les supporters belges qui adorent le football sont très sensibles aux Bleus.
Dans quel groupe est tombée la France pour les matchs de poule ?
Eh bien, ils sont dans un groupe avec la République tchèque, le Danemark, et puis l'un des deux pays organisateurs, les Pays-Bas. Ça s'annonce plutôt bien parce que la France est championne du monde, parce que le Danemark n'est pas une grosse sélection. La République tchèque est finaliste de l'Euro précédent en Angleterre en 1996, et les Pays-Bas sont toujours dangereux parce que c'est une nation de football, et en plus, elle va bénéficier d'un soutien populaire.
Les Bleus entrent en lice dans cette compétition le 11 juin 2000 à Bruges face au Danemark.
Ça va très bien se passer, les Bleus vont s'imposer 3-0 facilement face à une équipe qui est supposée la plus faible du groupe. Mais surtout pour les amateurs de superstition, tout le monde se rappelle qu'en 1984, année du titre de champion d'Europe, comme en 1998, année du titre mondial, l'équipe de France à chaque fois a dû affronter le Danemark et l'a battu. Et là, battre à nouveau le Danemark en phase de poule, tout le monde voit ça comme un signe très encourageant.
Le lendemain du match, l'équipe titre s'est repartie comme en 1998, Harold Marchetti.
Oui, parce qu'en fait, il y a une dynamique qui s'est instaurée. L'équipe de France enchaîne les victoires et on se dit que cet Euro doit être le leur.
Cinq jours après ce premier match, les Bleus jouent la République tchèque, vice-championne d'Europe.
Ça ne sera pas une promenade de santé comme ça a pu être face aux Danois. Parce qu'en face, il y a un bloc très physique, avec notamment un attaquant qui fait plus de 2 mètres, Yann Koller. Donc c'est compliqué, il faut l'enfermer dans une boîte, comme disait à l'époque Marseille de Sailly. Donc pour les Bleus, ça se passe plutôt pas mal au début du match, puisqu'il y a un but très rapide de Thierry Henry.
Il a commis l'erreur, Gabriel Thierry Henry. Et allez, 1-0.
Derrière, Didier Deschamps commet une faute sur Nedved à l'entrée de la surface de réparation, c'est un pénalty. Et puis derrière, Youri Djorkaeff entre en scène. Il a remplacé Emmanuel Petit à la mi-temps du match.
Djorkaeff qui lance Thierry Henry face à Repka, c'est passé devant Repka. L'arrivée de Djorkaeff, oui.
Et il va inscrire ce second but des Bleus.
Après une heure de jeu, l'équipe de France qui reprend l'avantage.
Et ça donne 3 points supplémentaires à l'équipe de France et ça qualifie l'équipe de France pour les quarts de finale.
Et ce ballon mais limpide donné à Djorkaeff qui place la balle hors de portée de Černíček. C'est le meilleur buteur de la sélection française des 22 de Roger Lemaire. Bravo au coaching de Roger Lemaire qui est déjà payant.
Youri Djorkaeff, vous allez lui parler après ce match ?
On a forcément ce qu'on appelle les zones mixtes où les joueurs viennent s'exprimer face à la presse et il arrive avec un immense sourire et il nous dit « j'ai senti le but ». Alors on lui dit « mais Youri, mais pourquoi tu as senti le but ?» Il dit « j'avais ça en tête, je savais que j'allais rentrer, que j'allais marquer ». Il y a des joueurs qui ont parfois une prémonition, il y en a qui sont superstitieux également et Youri ce jour-là a eu tout juste.
Harold Marchetti, que se disent les journalistes qui suivent cette équipe de France, qui est donc qualifiée désormais pour les quarts de finale?
On se dit qu'on est reparti pour une belle aventure, parce qu'il y a tout. Il y a une puissance offensive, une sécurité défensive, et puis au milieu de tout ça, il y a un génie, Zinedine Zidane, qui a 28 ans et qui est au sommet de son art.
Le 21 juin 2000, dernier match de poule pour l'équipe de France, qui est donc déjà qualifiée, le match compte pour du beurre, on peut dire. Que fait Roger Lemaire?
Il renouvelle la quasi-totalité de son effectif, un seul titulaire au coup d'envoi, Marseille de Sailly, qui hérite du brassard de capitaine. Les Pays-Bas gagnent 3-2, mais ça n'a pas grand intérêt, ça a surtout permis de reposer les cadres.
Christophe Bérard, cette défaite n'inquiète pas vraiment les supporters français ?
Absolument pas. À cette époque, les Bleus, c'est les Beatles. C'est pas moi qui le dis, c'était les joueurs. Autant l'engouement en 98 est monté crescendo au fur et à mesure des matchs, autant là, depuis le début, les Bleus, tout ce qu'ils font, dès qu'ils sortent partout, il y a une vraie folie autour d'eux. Les scores d'audience à la télévision sont très très bons. Non, il y a un énorme phénomène. Alors, le fait que les Bleus soient qualifiés, se soient reposés, non seulement ça n'inquiète personne, mais au contraire, c'est très encourageant pour la suite. Parce que les Bleus vont se présenter en quart de finale frais.
Quart de finale disputé à Bruges le 25 juin contre l'Espagne et les Bleus arrivent en confiance.
Bien sûr, parce qu'ils connaissent très bien cet adversaire espagnol et ils se disent qu'ils ont toutes les armes pour dominer les Espagnols. C'est un match très disputé. Zinedine Zidane va ouvrir le score avec un coup franc brossé, enroulé, qui va dénicher une araignée dans la lucarne de Canizares. Derrière, pénalty pour l'Espagne pour une faute de Thuram sur Minutis. Mendieta égalise. Patrick Vieira, avec ses grands compas, va accélérer. Décaler Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff va placer une frappe chirurgicale hors de portée de Canizares.
Youri Djorkaeff,
La France mène donc 2-1. Nous sommes à la fin de la première mi-temps. Comment se passe la suite du match ?
Les Espagnols avaient naturellement jeté toutes leurs forces dans la bataille pour essayer d'égaliser. Muniz continue à martyriser Julian Thuram par ses crochets, par ses dribbles courts. Et à la 89e minute de jeu, un pénalty est sifflé en faveur de l'Espagne. Tout le monde se regarde, il y a un sentiment d'incompréhension. C'est une faute de Barthez qui est sanctionnée. Et puis Raúl prend ses responsabilités. Il frappe le pénalty, mais sa frappe part dans les nuages. Il y a quelques minutes d'arrêt de jeu, mais les Français vont très bien gérer leur affaire. Ils vont faire tourner le ballon, essayer de conserver, assez loin de leur but de préférence, et au final, ils s'imposent 2-1.
La France est donc qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Quel est le bilan de ce match ?
Il a montré que l'équipe de France était solide, qu'elle était capable de résister dans les moments de pression à un adversaire de qualité comme a pu être l'Espagne. Et maintenant, elle retrouve un vieil adversaire, le Portugal, une demi-finale comme en 1984.
Demi-finale disputée le 28 juin 2000 à Bruxelles. Et ça s'annonce compliqué face aux Portugais.
Ça s'annonce compliqué parce que le Portugal n'a pas encaissé le moindre but dans la compétition. Et il s'appuie également sur un joueur d'exception, Luis Figo, qui a 26-27 ans, qui finit la saison avec Barcelone et qui va rejoindre, durant l'été 2000, le Real Madrid. Et qui va forcément causer pas mal de soucis aux Bleus. Un joueur important qui sera d'ailleurs Ballon d'Or 2000. Le début du match montre une équipe du Portugal très disciplinée qui va trouver assez rapidement ouverture. On joue depuis même pas 20 minutes quand une percée de Sergio Conceição va profiter à Nuno Gomes. Didier Deschamps est un peu court, trompé par un rebond.
Nuno Gomes qui ouvre le score d'une façon incroyable. Barthez n'y peut rien.
Le Portugal mène 1-0.
Comment réagissent les Bleus ?
Ils savent qu'il reste énormément de temps. Ils ont appris que la patience est parfois le meilleur allié d'une équipe. Et donc, petit à petit, ils vont remonter la pente jusqu'au début de la seconde période où ils vont prendre l'ascendant dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont se créer de nombreuses occasions. Sur l'une d'elles, Nicolas Anelka va déborder, centrer en retrait. Thierry Henry va contrôler.
Il n'y a pas de hors-jeu signalé, il va pouvoir se retourner. Aïe ! Égalisation de Thierry Henry.
On est un peu avant l'heure de jeu, un partout entre la France et le Portugal.
Les deux équipes vont se neutraliser, c'est-à-dire qu'elles vont aller jusqu'à la fin du temps réglementaire sans se procurer d'énormes occasions et on arrive donc à une fin de match à un partout.
On en arrive donc à la prolongation. Quelle est la règle ?
Dans ces cas-là, depuis 1996, la règle est le but en or, c'est-à-dire la mort subite. La première des deux équipes qui marque a gagné.
Tout d'un coup, pour les supporters, la pression monte ?
Ah, c'est flippant. C'est flippant parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité de se remettre en selle. On prend un but, c'est terminé. C'est un chaos. Les deux équipes continuent à essayer de produire du jeu. Et puis, il va y avoir un nouveau fait de jeu. Sur une nouvelle offensive française, Sylvain Wiltord frappe. Et en fait, quand on revoit les images, le ballon va à la main du défenseur. Les Français mettent la pression sur l'arbitre.
Pénalty ! Pénalty ! Pénalty pour l'équipe de France !
Qui tire le pénalty ?
Zinedine Zidane, bien sûr. Et il va donner la victoire à l'équipe de France. Je dis bien la victoire parce que c'est terminé. C'est une mort subite comme avec Laurent Blanc en 98.
Et la France est en finale de l'Euro 2000 ! Zinedine Zidane ! Zizou envoie les champions du monde au paradis dans ce match face au Portugal.
Ça a été dur, chaque match a été encore plus difficile que celui d'avant. Mais bon, on est content d'aller dans la finale. Quoi. C'est vrai que c'était l'objectif, c'était une envie de tout le monde.
Et c'est l'équipe de France à qui tout sourit en ce moment qui se qualifie sur ce coup du sort.
La France est donc en finale de ce championnat d'Europe de football. Et dans la foulée, le Parisien annonce que cette finale sera le dernier match de Didier Deschamps.
Absolument, on avait eu une indiscrétion, sans trahir de secret d'Aïkov qui venait du cœur du réacteur, on va dire. Et effectivement, Didier Deschamps, le capitaine emblématique des Bleus, avait décidé de prendre sa retraite à l'issue de cette rencontre.
Le 2 juillet 2000, à Rotterdam, les Bleus retrouvent les Italiens en finale de l'Euro. Ils ont la pression ?
Bah oui, ils ont la pression parce que normalement les Bleus sont favoris, mais en face, c'est l'Italie. L'Italie, 2 ans plus tôt que les Bleus avaient sorti en quart de finale du Mondial et qui n'a pas digéré. Et les Français et les Italiens, ce sont des voisins. Beaucoup de cadres de l'équipe de France jouent encore dans le championnat italien. Donc clairement, les Italiens ont une envie énorme d'effacer le revers d'il y a 2 ans.
Le début de cette finale est compliqué pour les Bleus.
Le sélectionneur Dino Zoff a choisi un plan tactique et cette équipe de France qui était si bonne dans le jeu pendant tout le reste du tournoi, ben là elle déjoue. Les Italiens, tactiquement, ils sont parfaits. Ils tissent une toile d'araignée. Ils font déjouer Zidane, ils font déjouer Djorkaeff, les leaders techniques de cette équipe. Les Français sont englués et le match est figé, pesant, stressant.
Quel est le score à la mi-temps ?
0-0. Et évidemment, dans les vestiaires français, le maître mot, c'est surtout ne prenons pas de but face à ces Italiens qui sont très forts tactiquement aujourd'hui. juste avant l'heure de jeu, ce qu'on craint va arriver sur un centre italien. Le buteur de l'équipe italienne, Del Vecchio, ouvre le score. Et là, il y a une chape de plomb qui tombe sur les épaules de l'équipe de France et de ses supporters. Là, on se dit, ça y est, c'est mort.
Harold Marchetti, vous êtes dans le stade de Rotterdam pour cette finale. Décrivez-nous ce stade à ce moment-là.
On est devant un total sentiment d'impuissance. Et cette impression d'impuissance gagne les supporters réellement. Donc il n'y a plus de chants, il y a des encouragements, mais qui sont de plus en plus espacés. On se heurte à un mur, à une muraille italienne.
Roger Lemaire va procéder à quelques changements. Il fait entrer en jeu Trezeguet et Wiltord. Même les changements ne sont pas opérants. La France déjoue, les minutes s'écoulent. Et clairement, on se dit tous, c'est fichu, l'Italie a gagné.
Harold Marchetti, c'est ce que vous dites aussi à Rotterdam ?
J'ai commencé à rédiger mon papier vers la 70e minute, et devant impuissance tricolore, j'avais une connotation très négative, j'étais certain qu'ils allaient perdre, en disant, les Français ne se succéderont pas à eux-mêmes, 98, mais il n'y aura pas 2000. Il ne me restait plus qu'à appuyer sur le bouton et envoyer le papier à la rédaction qui à l'époque était à Saint-Ouen.
Que se passe-t-il ensuite ?
Vers la 85e minute, il y a eu un troisième changement qui fait entrer Robert Pires, qui ne s'y attendait pas vraiment, à la place de Vicente Lizarazu. Et Robert Pires, on en a encore reparlé récemment, il dit « mais moi je suis sur le terrain, je ne sais même pas pourquoi je suis rentré, on a perdu ». L'arbitre donne 4 minutes de temps additionnel, mais c'est presque 4 minutes de torture, parce que là, à ce moment-là, sur le banc de touche des Italiens, tous les remplaçants se sont levés, adresse des petits clins d'œil un petit peu moqueurs, voire chambreurs aux Français. Et ils attendent qu'une chose, c'est que l'arbitre donne le coup de sifflet final pour se ruer sur la pelouse et pour fêter leur titre de champion d'Europe. Voilà, c'est fait, ils sont là et c'est une question de secondes.
Chercher Laurent Blanc, il est tombé sur la tête d'Albertini, Del Piero.
À ce moment-là, les Italiens commettent une faute. La France obtient un coup franc à 20-30 mètres des buts français. C'est Fabien Barthez qui va directement se précipiter sur le ballon, tirer le coup franc et l'envoyer très loin devant. Le ballon arrive sur la tête de David Trezeguet, plus grand que tout le monde, qui prend le ballon de la tête et qui le remet sur sa droite en profondeur pour Sylvain Wiltord, l'homme qui était rentré à la 75e minute. Tout le stade retient son souffle. On est du côté des supporters français, mais il n'y a plus un bruit. Et à cet instant, Sylvain Wiltord contrôle le ballon, entre dans la surface.
Wiltord qui peut frapper, oui, Wiltord.
Une frappe croisée. Indescriptible.
Ce coup-là, il a joué à Wiltord.
Un partout, Harold Marchetti.
Eh bien là, je n'envoie plus mon papier. Et je me dis, ben, on est parti pour une nouvelle prolongation qui va peut-être permettre aux deux équipes de se départager. Mais comme on a l'impression que dans ce match, les rebondissements sont légion, on se dit que ça ira peut-être aussi au tir au but. On n'en sait rien. Mais on reprend espoir. Comme les joueurs, en tribune de presse, le sentiment de confiance est revenu.
Chez les joueurs, c'est même plus que reprendre d'espoir. On a encore eu récemment Vicente Lizarazu et Robert Pires qui nous disent, à cet instant, on sait qu'on a gagné. Parce que les Italiens, qui étaient très fatigués par leur demi-finale précédente où ils étaient allés au tir au but et avaient joué 90 minutes sur 120 en infériorité numérique, sont épuisés. Ils n'avaient qu'une ambition, c'était de tenir. Et psychologiquement, ils étaient à quelques instants du bonheur. Le pouvoir a changé de côté d'un coup. Physiquement, la France a pris le dessus. Et elle multiplie les tentatives.
La reprise de Zidane, c'est contré, c'est corner. C'est corner pour l'équipe de France.
Ce qui doit arriver survient. Rappelez-vous des trois remplaçants que Roger Lemaire a fait entrer en jeu. Sylvain Wiltord, auteur de l'égalisation, Robert Pires et David Trezeguet. Bah, les deux derniers vont être décisifs. Sur le côté gauche, Robert Pires lui récupère un ballon. Il se joue littéralement du capitaine italien Fabio Cannavaro. Il le laisse sur place. Il adresse un centre venu de la gauche en retrait pour David Trezeguet.
Il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe.
C'est un moment d'extase.
L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wiltord, et c'est fabuleux.
Un moment unique, un de mes meilleurs souvenirs professionnels. Et c'est très compliqué comme sentiment parce que je dois à la fois finir enfin mon papier et envoyer. J'avais déjà commencé à le retoucher pendant la prolongation et là, il faut totalement le changer. Être dans l'emphase, essayer de transmettre ses propres émotions au lecteur, c'est pas simple et on a un temps limité parce qu'on est en période de bouclage, il est très tard déjà. Et donc forcément, on fait au mieux, mais les frissons, ben, c'est qu'on est heureux. On se dit, j'ai une chance folle d'être au stade du CUIP et d'avoir vécu ce scénario incroyable.
Décrivez-nous l'ambiance sur le terrain pour les Bleus.
Mais les joueurs sont comme des gosses, ils se congratulent, ils s'enlacent, ils ont envie que ces instants durent des heures. En fait, c'est des moments d'éternité pour eux. Champions du monde, champions d'Europe, ils sont au sommet, ils sont sur l'Olympe. Donc forcément, cette pelouse est devenue la leur. Alors que les Italiens sont en pleurs, chez les Français, ce sont des larmes de joie, d'allégresse.
Il y a une blague qui a couru tout le long de l'été en France qui disait « Vous savez comment on fait pour reboucher une bouteille de champagne sitôt débouchée ?» Et tout le monde disait non, bah, demandez aux footballeurs italiens. Et croyez-moi, cette blague a fait énormément rire pendant tout l'été du côté français. Beaucoup moins de l'autre côté des Alpes.
Il y a une scène qui va attirer l'attention entre Roger Lemaire et Didier Deschamps.
Absolument, on voit les deux hommes en train de discuter. Didier Deschamps est en train d'expliquer à Roger Lemaire que c'était son dernier match. c'est fini, il ne portera plus le maillot bleu. Roger Meumer tente d'infléchir sa décision en lui disant « j'ai besoin de toi », mais Deschamps lui dit « j'ai envie de profiter de ma femme, de mon fils ». Et puis Roger va proposer quelque chose d'assez fou à Didier Deschamps. Il lui dit « j'ai meilleur que toi à ton poste, j'ai Patrick Vieira, mais j'aimerais par rapport à ton importance au sein du groupe que tu joues un match sur trois ». Et ça, c'est les mots de trop. Pour Didier Deschamps, qui était un compétiteur né, qui a un CV long comme le bras, c'est pas possible. Donc forcément, Didier Deschamps reste campé sur ses positions et Roger Meumer devra chercher un nouveau capitaine.
Harold Marchetti, cet Euro 2000, c'est la fin d'une époque pour les Bleus.
C'est le départ de deux monstres sacrés, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Voilà, c'était deux joueurs qui, chacun à un poste spécifique, avaient une importance folle. Didier Deschamps était heureux et privilégié du sélectionneur, Laurent Blanc, le patron de la défense. Et forcément, l'équipe de France va se retrouver orpheline de deux joueurs. Vous me direz, deux sur 11, c'est pas beaucoup, mais si, c'était énorme.
L'histoire va retenir plus tard que le sommet de cette génération-là, c'était à Rotterdam, un 2 juillet 2000.
Merci à Christophe Bérard et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Benjamin Boucriche, Stéphane Geneste et John Timsit, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.